Gameo 5, réussir la fin du mariage. Première partie, divorce, réconciliation ou renoncement au mariage. Les conjoints parlent de divorce quand ils désobéissent à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, qui dit en Matthieu 19 au verset 6 et en Marc 10 au verset 9, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Mais même alors, il est possible de réussir la fin du mariage si les conjoints séparés renoncent à se marier chacun de son côté et ou se réconcilient. Nous y reviendrons après avoir examiné le processus de détachement qui aboutit au divorce. Nous parlerons donc d'abord de distraction, dispute, distance et divorce, puis nous parlerons de réconciliation ou renoncement au mariage.
Ce message de Paul-Julien Braga et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application EPP La Parole dans Play Store ou App Store.
Distraction, dispute, distance et divorce. Il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Marc 14, verset 38. Jésus dit ces paroles à ses disciples, endormis pendant que lui combat dans la prière. Ce manque de vigilance et de prière est malheureusement une réalité des foyers dans certaines situations de danger. L'attention doit alors se porter sur Dieu pour comprendre ce qui se passe et faire sa volonté. Pourtant, c'est parfois là qu'on dort. Or, c'est ainsi que les problèmes s'enchaînent si on ne se réveille pas pour les arrêter. D'abord, on cède, avec des arguments parfois légitimes, à l'ennemi de l'attention qui est la distraction. La distraction fait le lit des disputes, les disputes enfantent la distance. La distance expose au divorce qui est la fin du processus insidieux de détachement déclenché par la distraction. En effet, la distraction détache le cerveau et atteint ainsi l'attention. Les disputes détachent le cœur et atteignent ainsi l'affection. Et la distance détache le corps, atteignant ainsi l'accouplement. Parlons donc de la distraction. Une personne distraite est une personne dont l'attention se détourne de la priorité. Dieu vous a béni avec des relations spirituelles, conjugales, familiales, etc., qui impliquent des responsabilités, lesquelles responsabilités requièrent des ressources. Dans l'ordre de vos relations, la relation avec Dieu est la priorité des priorités, car le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi Paul mettait en garde contre le risque d'inquiétude et de distraction qu'entraîne le mariage. Parlant du focus sur le Seigneur, il écrit « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. » Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Elle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens 7, versets 32 à 35. Cependant, c'est le même Paul qui présente les relations entre mari et femme comme reflet des relations entre Christ et l'Église, en Éphésiens 5, versets 22 à 33. Et il enseigne aussi sur les relations avec les autres membres de la famille, en 1 Timothée 5, verset 8, par exemple. Cela montre que quand la relation avec Dieu prime, les autres priorités se mettent en ordre. Le mari et la femme qui ont Dieu pour priorité auront une bonne communion et une bonne communication. Ils trouveront ainsi les moyens appropriés de faire attention l'un à l'autre selon Dieu. Alors, comme Christ et l'Église, ils seront vainqueurs. Ils ne seront pas distraits par les préoccupations, possessions et plaisirs de la terre. Toute chose qui, selon Marc 4, verset 19, étouffe la parole de Dieu et la rende infructueuse, ce qui crée un terrain fertile dans le couple pour les disputes. Dispute. Sur le fond, les disputes naissent généralement de la mauvaise gestion des frustrations qui sont les attentes non satisfaites. Sur la forme, les disputes se nourrissent de la mauvaise communication entre les conjoints au sujet de ces frustrations. Comment éviter le trouble et l'infection? Faire la distinction entre combat de la foi et querelle est la première étape pour une bonne communication de crise, car c'est ainsi que chaque conjoint pourra éviter les troubles et l'infection produits par les racines d'amertume. Les Écritures disent en effet « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Hébreux 12, verset 15. C'est là le chemin de la sagesse et de la maturité. À cet égard, l'étude 2, « Réussir la vie de couple », aborde les aspects pratiques de la collaboration de couple. Car, comme dit 2 Timothée 2, verset 24, « Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Souvenez-vous qu'il est écrit « Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. » Proverbe 21, verset 19. Cette parole est tout aussi applicable aux maris querelleurs et irritables. Mais elle souligne aussi que les disputes entraînent la tentation de la distance. Distance. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Tel est le commandement du Seigneur Jésus-Christ en Luc 17, versets 3 à 4. Quelqu'un entend ça et se dit « Un seul jour, hein, toi seul, 7 fois. » Et puis tu demandes pardon 7 fois. C'est pas toi, oh, c'est moi-même. Je fais quoi ici même? On ne dure pas dans mauvais rêves. Et c'est ainsi que le manque de pardon éloigne, d'abord spirituellement, ensuite émotionnellement, puis physiquement pour finir. Car le Seigneur Jésus a averti que refuser de pardonner aux autres prive du pardon de Dieu. Il est écrit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Marc 11, versets 25 à 26. La colère et l'amertume peuvent créer une telle distance qu'on se détache de l'autre jusqu'à l'indifférence meurtrière. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Il est écrit « L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel ?» Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse 4, verset 9. Et vous vous dites que vous n'iriez pas jusqu'au meurtre, mais savez-vous où vous en êtes? Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle, nous rappelle 1 Jean 3, verset 15, lu dans la version du Semeur. Caïn n'avait pas commencé par le meurtre, il a commencé par la colère et 2 possibilités, soit faire le bien en dominant sur le mal, soit se laisser séduire par le mal. Dieu lui avait ainsi parlé avant qu'il ne commette le meurtre contre son frère. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Genèse 4, versets 6 à 7. Béni soit le Père Céleste qui nous a donné un frère dont nous n'étions pas dignes. Cependant, ce frère s'est fait notre gardien et a accepté la honte et la mort pour le pardon de nos péchés. Jean a écrit à son sujet « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » 1 Jean 2, versets 1 à 2, version Semeur. Soyons des intercesseurs à l'image de Christ. Dans notre identification à Christ, nous aussi sommes des intercesseurs pour nos semblables, et en particulier pour le conjoint. C'est ainsi que nous échappons au piège des querelles pour combattre le bon combat de la foi qui sauve. Or, la distance produit justement le refus de s'identifier au conjoint et d'intercéder pour lui. Cependant, même Caïn avait la possibilité de se repentir et dominer sur le mal. À combien plus forte raison ceux à qui Jésus-Christ s'est révélé? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, nous exhorte Jacques 4, verset 7. Ne désirez pas, comme Caïn, la disparition physique de l'autre de votre espace commun. Ne désirez pas tuer votre mariage. Et si c'était déjà arrivé, faites les fonctions d'ambassadeur pour Christ et favorisez la résurrection et la réconciliation. Sur ce, nous arrivons au deuxième point de notre étude, réconciliation ou renoncement au mariage. Il arrive malgré tout que des mariages finissent mal. Mal finir signifie que le mariage prend fin pour une raison autre que la mort. En d'autres termes, les humains défont le mariage. Que ce soit pour infidélité ou quelque autre raison, que commande le Seigneur aux saints qui veulent se séparer, d'abord sur l'initiative de la séparation, ensuite sur la possibilité de remariage. Sur l'initiative de la séparation, les conjoints croyants ne doivent pas prendre d'initiative de séparation. 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, plus loin, et que le mari ne répudie point sa femme. 1 Corinthiens 7, verset 27a. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Le croyant marié à une non-croyante, tout comme la croyante mariée à un non-croyant, ne doit pas prendre l'initiative de la séparation. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16, dit en effet, « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. » Plus loin, « Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ?» 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16. Sur la possibilité de remariage. Les conjoints croyants qui se séparent ne peuvent pas se remarier. Chacun de son côté, ils restent sans se marier ou se réconcilier. Il est écrit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. 1 Corinthiens 7, verset 11. Ce qui s'applique aussi aux maris séparés. Le conjoint croyant répudié par le conjoint non-croyant n'est plus lié. Il est écrit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. 1 Corinthiens 7, verset 15. Le frère ou la sœur peut donc se remarier, mais dans le Seigneur, comme le veuf ou la veuve, dont nous parlerons dans la prochaine étude, réussir la fin du mariage, décès, remariage ou renoncement au mariage. Que Dieu vous bénisse.
Continuez d'étudier, pratiquez et partagez la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Thank you.